Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Nous poursuivons ensemble notre série qui est dédiée aux maladies rares de la filière neurosphinx, la filière de santé des malformations pelviennes et médulaires rares avec atteinte sphinctérienne et ou neurologique. Et aujourd'hui, nous abordons l'extrophie vésicale avec le professeur Marc-David Leclerc. Professeur Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Professeur Leclerc, vous êtes chirurgien infantile, chef du service de chirurgie infantile de l'hôpital Mère-Enfant du CHU de Nantes et coordonnateur du site constitutif du centre de référence Marbu, le centre de référence des malformations rares des voies urinaires de la filière neurosphinx. Alors, pour débuter notre entretien, professeur Leclerc, une question simple. Qu'est-ce que l'extrophie vésicale?
Alors, l'extrophie vésicale, c'est une malformation. C'est un défaut de formation de la paroi abdominale qui correspond en fait à un défaut de migration d'une membrane qu'on appelle la membrane cloacale. Et le résultat, c'est un défaut de formation, un défaut de fermeture de la vessie. Alors, ce sont des nouveau-nés qui vont avoir une anomalie assez visible sur toute la partie basse de l'abdomen, avec une vessie qui, en fait, est grande ouverte, dont l'intérieur est directement exposé dans la région du pubis, avec en plus une anomalie des organes génitaux externes, qui peut être particulièrement évidente chez le garçon. Et puis, il y a aussi une anomalie du bassin, et en particulier un écartement anormal du pubis. C'est une malformation qui est rare, hein. C'est une malformation qui atteint à peu près 2 nouveau-nés sur 100 000. Donc vous voyez, il y a 700 000 naissances par an en France. Faites le calcul, ça fait moins d'une quinzaine par an en France, surtout en tenant compte du fait que un certain nombre de ces enfants pourront faire l'objet d'une interruption de grossesse. Donc, c'est sûrement quelque part entre 10 et 15 nouveaux cas par an en France, ce qui correspond particulièrement à la définition d'une maladie rare.
Et dans ce contexte, le diagnostic prénatal est-il possible?
Alors, le diagnostic prénatal, oui, il est possible. C'est-à-dire que à la question « est-ce qu'on peut faire le diagnostic ?», la réponse est oui. À la question « est-ce qu'on le fait ?», en fait, non. Non, parce qu'en prénatal, on ne voit pas tout le détail de l'anatomie malformative. En prénatal, on regarde un certain nombre de structures et là, on a à répondre à une question qui est-ce que la vessie est visualisée ou pas? Et finalement, c'est un seul parmi des dizaines ou peut-être même des centaines d'items que les échographistes prénataux ont besoin de vérifier et il peut arriver, c'est même assez fréquent, qu'on passe à côté. C'est paradoxal parce que si à l'inverse, on pose la question, par exemple dans un contexte de familles pour lesquelles il y a déjà un enfant qui a une extrophie, si on pose la question précisément à l'échographiste prénatal pour une grossesse ultérieure, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas une extrophie vésicale? Ils peuvent répondre extrêmement facilement. Il suffit qu'ils aient vu la vessie, ils diront oui, il y a une vessie, c'est bon, c'est réglé, on est certain qu'il n'y a pas d'extrophie vésicale.
Est-ce qu'il existe une cause identifiée pour ces extrophies vésicales?
Non, on ne connaît pas. On ne connaît pas précisément d'anomalie, par exemple d'anomalie génétique en cause. Alors, même si on a quelques pistes, mais on n'a pas identifié de vrais gènes dont on serait certain qu'ils sont responsables de l'extrophie. On pense qu'il y a quand même un substratum génétique. Par exemple, on a estimé que le taux de récurrence dans une famille, c'est-à-dire le risque d'avoir un deuxième enfant atteint quand on a déjà un enfant qui a une extrophie, il est d'environ 1%. 1%, c'est 500 fois plus que la population générale. Donc, il doit bien y avoir des facteurs génétiques, même si on ne les connaît pas. Il y a un autre exemple qui est qu'il a été rapporté que des paires de vrais jumeaux, on peut observer des paires de vrais jumeaux où les deux ont une extrophie, mais on a aussi observé beaucoup plus souvent des paires de vrais jumeaux où un seul des deux a une extrophie. Donc, on est devant une malformation dont on ne comprend pas très bien les mécanismes. On se doute qu'il y a une part de substratum génétique, mais on est très certainement devant quelque chose qui est multifactoriel.
Et pour ces jeunes patients concernés, quels sont les enjeux et le pronostic de la prise en charge?
On est devant une anomalie avec un défaut de formation majeur de tout le bas appareil urinaire, c'est-à-dire une anomalie de la vessie, de tout le système sphinctérien, donc les muscles qui assurent la continence, de l'urètre, mais aussi des organes génitaux externes. Donc finalement, les enjeux, c'est être capable d'assurer une reconstruction chirurgicale qui soit fonctionnelle, c'est-à-dire avoir à la fois une vessie qui se développe, qui joue son rôle de stockage, de réservoir, mais aussi avoir un appareil sphinctérien qui assure son rôle en termes de continence, et puis un appareil génital qui, 18 ans plus tard, soit fonctionnel. Tout ça, ça se fait au prix d'une ou souvent de plusieurs reconstructions, de plusieurs interventions chirurgicales tout au long de l'enfance, ce qui est évidemment assez lourd. En fait, le vrai problème, c'est que depuis une cinquantaine d'années qu'on a essayé différentes interventions de reconstruction chirurgicale, on a compris qu'une partie du pronostic nous échappe, en fait, et qu'il est indépendant des chirurgies qu'on va faire. Le pronostic est en grande partie prédéterminé par des facteurs qu'on ne connaît pas très bien à l'avance et qui vont faire que parfois une vessie grandit, mais que souvent elle ne va pas grandir et qu'on sera amené à ce moment-là à faire des interventions pour compléter ce problème-là et agrandir la vessie, par exemple. Ou bien parfois, il n'y aura pas de structure musculaire nécessaire au développement, à l'acquisition d'une bonne continence. Et du coup, dans ces cas-là, on sera contraint, on sera réduit à des solutions un peu dégradées qui vont être de réaliser des interventions, par exemple pour agrandir la vessie, par exemple pour renforcer les résistances qui assurent la continence. Et évidemment, ça mettra l'enfant dans une situation qui ne va pas être tout à fait physiologique. Ce qui est physiologique, c'est l'acquisition d'une continence qui se fait avec une vessie, qui est la vessie d'origine, et puis un enfant qui est capable de faire pipi par les voies naturelles. Ça, c'est l'enjeu central, mais ça ne sera le cas que pour une minorité d'enfants en réalité. Être continent, c'est avoir la capacité d'être sec entre deux mictions, suffisamment sec pour pouvoir regarder un film, suffisamment sec pour ne pas sortir au milieu du cours de maths ou du cours de conjugaison, mais aussi d'être capable en même temps de vider la vessie correctement. Et ces deux paramètres-là jouent un peu l'un contre l'autre. C'est-à-dire que si on fait des interventions pour augmenter la sécheresse, pour renforcer la continence, on risque d'impacter la capacité de la vessie à se vidanger correctement. Et donc finalement, les enfants qui ont un bon résultat et qui ont l'acquisition d'une continence qui est physiologique, c'est des enfants qui vont être finalement pile au bon équilibre entre trop de résistance et pas assez de résistance. Et ça, c'est un équilibre qui est vraiment difficile à obtenir. Ensuite, en termes d'enjeu, ce qui va être juste derrière, si on n'arrive pas à obtenir cet équilibre-là, ça va être que pour pouvoir apporter ce qui s'appelle plus du coup une continence, mais qui va être juste ce qu'on appelle une sécheresse sociale, ça va nous contraindre à faire des interventions dont le corollaire sera d'abandonner l'idée d'avoir des mictions par les voies naturelles. Évidemment, sur le plan ne serait-ce que symbolique, c'est quelque chose qui est important. Un enfant, un jeune adulte, c'est compliqué pour lui-même, pour son entourage, d'envisager d'abandonner le fait d'avoir des mictions par les voies naturelles, par le canal de l'urètre, comme on dit, et ça implique de réaliser ce qu'on appelle les sondages. Le sondage intermittent, c'est une technique qui est maîtrisée depuis maintenant plus de 70 ans. Il y a des milliers de patients, enfants et adultes dans le monde qui vident leur vessie en sondant leur vessie de façon intermittente. Dans les autres enjeux, même si celui de la continence et du développement de la vessie est vraiment l'enjeu central, il y a d'autres éléments. Un enjeu doit passer avant presque tous les autres, c'est celui de la protection des reins. En prenant en compte le fait que ces enfants-là naissent avec des reins normaux, ils naissent avec une fonction rénale normale, mais la reconstruction qu'on va faire de la vessie, de leur système sphinctérien, de leur urètre, va parfois mettre en danger leur fonctionnement rénal. Et donc, on est toujours dans cet équilibre subtil entre apporter des éléments fonctionnels comme le confort d'avoir une sécheresse, une continence, sans pour autant mettre en danger les reins. Et puis, un enjeu absolument majeur, en particulier chez les garçons, c'est la reconstruction de l'appareil génital. Ces enfants-là et ces futurs adultes-là ont, que ce soit pour les garçons, pour les filles d'ailleurs, des anomalies des organes génitaux externes. Alors, chez les filles, c'est minime, ça ne pose pas de vrais problèmes fonctionnels, ou en tout cas, quand ça pose des problèmes, on sait y remédier assez facilement. Chez les garçons, c'est plus compliqué. Ce sont des garçons qui ont une anomalie de la verge qui est quand même absolument majeure, avec une verge qui est quand même souvent courte, souvent un peu plus large que la normale, avec une courbure vers le haut, une courbure dorsale qui peut poser des problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'on doit essayer de reconstruire au mieux avant l'âge adulte et avant la période d'activité génitale. La fertilité, puisqu'on parle des organes génitaux, est moins un problème. Ce sont des futurs adultes qui sont fertiles. Les filles ont des ovaires normaux, elles ont un utérus, elles ont des règles et elles ont des grossesses. Elles ont certains problèmes, et en particulier le principal problème est celui des prolapsus. Elles ont parfois des prolapsus de l'utérus qui vont demander un suivi particulier, obstétrical, gynécologique, parfois des interventions. Mais globalement, elles ont une fertilité normale dans le sens où elles peuvent porter des enfants. Chez les garçons, c'est un petit peu différent. Chez les garçons, le problème est le suivant. Ils ont des testicules normaux. Ils ont du sperme de qualité normale. Et pourtant, 20 ans plus tard, au moment d'un désir de paternité, assez souvent, ces garçons-là vont avoir des difficultés. Et c'est souvent le résultat des chirurgies de la continence qu'ils ont eues. C'est-à-dire que spontanément, ils auraient une fertilité normale, mais les chirurgies de reconstruction que l'on va avoir été amené à faire pendant l'enfance peuvent en partie altérer ça.
Alors justement, pour conclure, professeur Leclerc, quel suivi proposer aux patients ?
Alors, le suivi de ces enfants, il est essentiellement en chirurgie pédiatrique. Ce sont les équipes de chirurgie pédiatrique qui pour l'essentiel, vont gérer ces enfants et ces familles. On a le choix entre différentes techniques dans les détails desquelles il n'est pas forcément intéressant de rentrer, mais globalement, ces enfants vont avoir besoin d'une intervention, soit pile à la naissance, soit plus fréquemment maintenant, un peu plus tard, vers l'âge de 2 ou 3 mois, parce que la fermeture a un petit peu différé de leur vessie, et puis la reconstruction a pas mal d'avantages métaboliques, hormonales. Ce sont quand même des interventions. Enfin, la première intervention est une intervention chirurgicale assez lourde. Et on a plutôt intérêt à la faire chez un bébé qui fait 5-6 kilos et qui a 2 mois, plutôt que chez un nouveau-né. Donc, c'est une chirurgie qui est lourde, comme je disais. Mais ensuite, on leur fera finalement pas grand-chose. On va beaucoup les suivre, beaucoup les surveiller. On les voit très, très régulièrement. Nous, on les voit tous les 3 mois pendant, je dirais, les 2 premières années. Ensuite, on va espacer un peu. On les voit au minimum du minimum une fois par an. Mais ensuite, ce sont des enfants à qui on ne va presque plus rien faire. On va les regarder. Ils vont rentrer à l'école à un âge normal. Ils vont jouer comme les autres. Et c'est seulement vers l'âge de 5, 6, 7 ans qu'à ce moment-là, on va se poser, on va se reposer les questions dont je vous parlais au début, qui sont est-ce que la vessie est en train de se développer ? Est-ce qu'on a des résistances ? Est-ce qu'on a un système sphinctérien qui semble se développer suffisamment ? Et si ce n'est pas le cas, on sait qu'à ce moment-là, on va devoir se diriger vers des interventions chirurgicales qu'on va faire à ce moment-là, vers l'âge de 5, 6, 7 ans. Ensuite, le suivi, encore une fois, il est essentiellement en chirurgie pédiatrique. C'est un suivi multidisciplinaire au sens médical et paramédical du terme. Nous, on doit voir ces enfants-là, à la fois l'équipe médicale, mais aussi les infirmières spécialisées dans l'éducation thérapeutique, les psychologues, parfois les kinés, souvent les assistantes sociales au début de la prise en charge. Il y a vraiment besoin d'un accompagnement global de l'enfant et de sa famille. Et puis, le dernier point, parce que quand on fait de la chirurgie pédiatrique, c'est l'aboutissement de toute notre prise en charge. On a besoin que ces enfants-là soient suivis et accompagnés par des équipes qui savent vraiment gérer la transition adolescents et jeunes adultes, parce que les enfants qui ont une malformation à type d'extrophie vésicale vont avoir besoin d'un suivi pour leur vie entière. Et donc, on doit être capable de leur proposer des correspondants, un accompagnement, gynéco pour les filles, urologue adulte et équipe de la reproduction pour les garçons, pour qu'ils puissent vraiment avoir un accompagnement pendant toutes les périodes de la vie, y compris jusqu'à un âge avancé.
Bien, merci infiniment, professeur Leclerc, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'extrophie vésicale. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rareadlecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur une nouvelle maladie rare de la filière Neurosphinx. À très vite.